Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Marie-Soleil Gagné, la directrice générale d'Accès Transport Viable. Accès Transport Viable est l'organisme phare qui œuvre depuis plus de 30 ans dans la région de la Capitale-Nationale et celle de Chaudière-Appalaches. Et c'est pour promouvoir les transports actifs et collectifs, dont bien entendu la marche. Avec son énergie débordante et communicative, elle nous parle de ce qui les anime tous, elle et l'organisme qu'elle dirige, et de comment la science et l'analyse des meilleures pratiques internationales sont à la base de leur travail. Comme c'est notre complice et chroniqueur Michel O'Neill, le serin pèlerin, qui nous a mis en contact, je l'ai invité à se joindre à nous pour cet échange lors de ma dernière visite à Québec. En seconde partie de l'émission, nous retrouvons Michel Cousinat-Baudet et sa chronique « Le corps en marche », alors qu'elle nous suggère une formule infaillible pour retrouver la joie et le bien-être en marchant. Alors, bonne écoute et bonne marche! Alors, Marie-Soleil et Michel, bonjour et merci d'être des nôtres pour marcher vers le bien-être.
Un grand plaisir, Denis, d'être avec vous.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Alors, Marie-Soleil, Accès Transport Viable existe depuis une trentaine d'années à peu près. Rappelez-nous les motifs de sa fondation et peut-être les principales étapes de son cheminement.
Oui, alors, merci de l'invitation. Accès Transport Viable, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 30 ans maintenant. On travaille dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches et on fait la défense des droits des personnes qui utilisent les transports actifs, la marche, le vélo, la micromobilité, le transport adapté et aussi les transports collectifs, donc tout ce qui est autobus, tramway, j'ose l'espérer un jour, autopartage, etc. Et puis, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Accès Transport Viable, certes, s'est formé dans les années 90 de manière formelle, mais c'est vraiment depuis les années 70 en tant que tel que ça existe. Mm-hmm. C'est vraiment des citoyens, des citoyennes qui se sont réunis à un moment donné pour demander plus de transports collectifs à Québec. Et puis, donc voilà. Puis, on fait aussi beaucoup de promotion, de sensibilisation à la mobilité durable. On fait aussi de l'intervention dans des municipalités, dans des établissements scolaires pour surtout la sécurisation aux abords des écoles et aussi dans les petites municipalités.
Alors, ça fait beaucoup d'éléments.
Oui, puis aussi, vous avez une fonction d'expertise conseil aussi qui est
absolument
quand même importante. Là, moi, comme chercheur, je suis tombé sur plusieurs de vos documents dont j'ai été très impressionné de la qualité, en fait, constante des approches, mais de la qualité aussi. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là dans votre travail qui est à souligner.
Mais tout à fait. C'est ce qu'en transport, il faut autant travailler sur l'offre que sur la demande. Donc, quand on travaille sur l'offre, nécessairement, on participe à des consultations publiques, on essaye de dégager de la connaissance à travers des projets de recherche, effectivement, comme on a déjà fait dans le passé, pour travailler sur la demande. Donc, on accompagne les citoyens et les citoyennes vers les changements de comportement en matière de mobilité durable. Puis nous, bien, on cherche vraiment à se distinguer de par le fait qu'on facilite les changements de comportement. Donc, on essaie de prendre en compte les obstacles structurels peuvent freiner les personnes à l'adoption de comportements durables en matière de mobilité.
Alors, avant de plonger dans tous ces éléments, parlez-nous un peu de votre cheminement qui vous a amené à Accès Transport Viable, cheminement qui est un peu atypique.
Il se peut, oui, j'en conviens. Moi, je viens de la Gaspésie, la Haute-Gaspésie. Et en Gaspésie, c'est très traditionnel en tant que tel, dès qu'on a 16 ans, de passer son permis de conduire,
d'avoir sa voiture, un char.
Avoir son char, oui, exactement. Parce que entre les villages, c'est nécessaire, en fait. Là. Donc, on a une dépendance à l'automobile en Gaspésie.
Puis comme m'expliquaient mes amis de la Gaspésie, quand tu sors deux villages plus loin.
Exactement.
Pour aller prendre un coup, puis les gens ne te connaissent pas.
Mais, Oui, puis il y a ça. Puis bon, il y a aussi tout ce qui est la question des fréquentations, parce que bon, dans chaque village, c'est vraiment souvent la même famille qui habite le village. Bon.
Fermons la parenthèse.
Fermons la parenthèse, oui, exactement. Oui, bien, jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas de permis de conduire. Donc, je suis une drôle de petite bébite de la Gaspésie qui a décidé autre chose. Et puis, j'ai quitté la Gaspésie pour aller aux études à Rimouski, ensuite à Québec. J'ai fait un bac en sciences politiques et administration, ensuite une maîtrise en études internationales. Je suis allée travailler au Sénégal pendant près de 2 ans. Le développement international avec tout ce que ça comporte, j'ai vécu quelques petites désillusions et j'ai eu envie de revenir au Québec pour m'impliquer dans ma communauté. Puis la question environnementale, la question de la réduction des inégalités, personnellement, ce sont des valeurs qui sont profondément ancrées chez moi. Et puis j'ai vu une belle offre chez Accès Transport Viable en 2018 et puis j'ai embarqué dans cette belle aventure-là. Puis, je suis maintenant directrice générale depuis maintenant 2 ans. Puis, j'ai la très grande chance d'être accompagnée par une équipe compétente et par des gens passionnés. Oui.
Et vous êtes une grande marcheuse.
Oui, oui. Je me considère premièrement comme étant une piétonne. Pour moi, la marche, c'est vraiment... Je pense que ça fait partie de mon identité. Mais aussi, je pense que c'est nécessaire, en fait, pour ma santé physique et mentale. Pour moi, c'est vraiment... C'est mon sport favori, comme je pourrais dire. Là. Donc,
bravo.
Oui, merci.
Denis va reconnaître une âme sœur en vous. Parce que lui, il a toujours... Lui, il n'a pas d'auto non plus. Il a toujours marché toute sa vie. Mmh.
C'est ça, nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors, Marie-Soleil, parlons de vision maintenant. Alors, la vision de votre organisme s'articule autour de 4 volets. Oui. Nous allons parler un peu plus de la marche, probablement, mais les 4 volets sont des villes à l'échelle humaine, la mobilité durable, le droit à la mobilité et la sécurité routière et vision zéro. Parlez-nous d'abord des villes à l'échelle humaine. C'est quoi?
Oui. Donc, Accès Transport Viable ancre ses prises de position, ses interventions, ses activités sur la science. Donc, on est toujours dans une perspective, en fait, d'accélérer la transition socio-écologique pour plusieurs raisons, que ce soit des raisons environnementales, des raisons de santé publique ou même des raisons qui sont économiques. Et puis, effectivement, la ville à échelle humaine, c'est un concept qui a été développé par Yann Gehl. J'encourage vivement à aller lire sur le sujet. Et puis, c'est vraiment finalement de renverser le paradigme que nos villes, notre territoire, il est conçu à l'heure actuelle pour favoriser les déplacements automobiles.
Tout à fait, oui.
Et puis, les villes à échelle humaine, c'est un renversement de paradigme. C'est une approche aussi qui est plus ou moins éprouvée aussi là, à l'international, mais pas que. Là, on peut parler aussi de certains endroits là, au Québec. Et puis, c'est vraiment de faire en sorte que l'être humain se retrouve au centre, finalement, là, des interventions urbanistiques, mais que ça soit pas une deuxième pensée, comme je pourrais dire, mais que ça soit vraiment une priorité, finalement. Là. Donc, de vraiment prévoir des allées pour se déplacer qui soient pas... trop grande, trop large, de pouvoir avoir des espaces pour se reposer, ne pas avoir d'îlots de chaleur, ce genre de choses-là. Or, on le constate en Amérique du Nord, malheureusement, on n'est pas vraiment rendu là en termes de ville.
Moi, j'ai vécu au Danemark pendant une année, il y a 30 ans.
Mm.
Et on était déjà très, très dans ce mode-là. Absolument. Au Danemark. C'était, pour nous qui arrivions d'Amérique du Nord, c'était très frappant. Là. Le véhicule prioritaire, c'était le vélo. Mm-hmm. Et là, quand il neigeait, la première chose qui dégageait, c'est les pistes cyclables, les autos après. Alors, eux, ils ont compris ça depuis longtemps.
Mais oui, mais c'est comme si, en fait, c'est vraiment super intéressant ce que vous venez de mentionner, Michel, c'est que on n'est pas obligé, en fait, de rester avec ça, avec ce statu quo-là. Là. Donc, on peut, en fait, le Danemark a fait un choix, en fait, là, dans les années 80-90, de favoriser, en fait, les déplacements actifs. Donc, veux pas, ils ont vraiment conçu, en fait, les villes, ils ont conçu les habitats, ils ont conçu les milieux de vie pour faire en sorte que les personnes puissent se déplacer de manière active. Et je suis pas mal persuadée que si on va voir les dépenses en santé, les dépenses en éducation, les dépenses à différents niveaux, on se rendrait compte qu'il y a même des gains d'un point de vue collectif aussi. Hein.
Tout à fait. Mais c'est des choix, par exemple, je ferme ma parenthèse danoise là-dessus, mais pour acheter une automobile au Danemark, On l'achetait, puis on la plaquait une fois. Et le coût de la plaque, c'était deux fois le prix de l'automobile.
Oh.
Ça veut dire on ne veut pas d'automobile, ou en tout cas, c'était très désincitatif pour que les gens. Mais, par exemple, il y avait des aspects collectifs. Le transport en commun était extraordinairement bien organisé. Toutes les bibliothèques foisonnaient de choses. Alors, c'était vraiment un des choix et une vision qui était tout à fait intriguant pour nous, là, qui arrivions du Québec.
Et la mobilité durable?
La mobilité durable, ça fait partie, c'est le centre, c'est le cœur de notre action en tant que telle. Donc, la mobilité durable, c'est une approche qu'on encourage. On se base beaucoup sur l'approche RTA, donc réduire, transférer, améliorer. Puis, c'est vraiment super important de suivre la priorité aussi. Donc, on parle vraiment de la réduction, donc la réduction à la source des déplacements. Donc, le télétravail, clairement, a changé un peu les pratiques des personnes. Puis, on s'est rendu compte aussi que ça a limité la congestion, ça a vraiment eu des impacts assez incroyables aussi, même sur la biodiversité, sur la qualité de l'air. Donc, après la réduction, on a le transfert vers d'autres modes, donc d'aller vers les transports collectifs, d'aller chercher finalement un cocktail transport qui puisse remplacer finalement le confort et la rapidité, l'efficacité finalement de l'automobile individuelle. Puis, l'amélioration, c'est vraiment la dernière étape de la mobilité durable, encore une fois en priorité. Puis, dans l'amélioration, on parle d'électrification. Donc, vraiment, là, tout ce qui est automobile électrique en tant que tel, c'est sûr que oui, ça peut faire en sorte que ça peut limiter la pollution de l'air, mais en même temps, ça reste que le parc autoroutier reste le même en tant que tel. Là. Donc, c'est pour ça que nous, on préconise vraiment le R, ensuite le T, ensuite le A, dans cette perspective, là, dans cette approche de mobilité durable. Là.
Et la mobilité, pour vous et pour plusieurs personnes, évidemment, c'est un droit.
Absolument.
Et de quelle façon?
De quelle façon? Donc, la mobilité, effectivement, c'est quelque chose qui est très structurant, en fait, en tant que tel dans la vie. Si on n'a pas d'option de transport pour pouvoir se déplacer, c'est là où ça peut devenir compliqué, dans le sens où ça peut nous empêcher d'aller à l'école, ça peut nous empêcher d'avoir accès à un travail, d'avoir accès à des services essentiels. Et c'est ce qu'on appelle avoir un déficit de mobilité. Donc, le fait que de ne pas avoir d'option de transport qui répondent à nos besoins en fonction de nos caractéristiques. Et puis, il faut savoir que tous et toutes ne sont pas égaux en matière de mobilité. Là. Donc, posséder une automobile, ça coûte, selon CA Québec, environ 10 000 $ par année. Or, ce n'est pas accessible à tous et à toutes. Et puis, la mobilité, ce qui est dramatique en arrière de tout ça, c'est que quand on a un déficit de mobilité, on devient littéralement invisible dans l'espace public parce qu'on est confiné dans son espace privé.
Oui.
C'est exactement ce qu'on a vécu, vous et moi, pendant la pandémie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de manière
beaucoup, oui.
autant négative que moi,
oui.
Mais c'est sûr qu'il y a des personnes pour qui c'est une réalité qui est quotidienne. Et de là, l'importance, en fait, de prévoir des options de transport qui soient abordables, accessibles, sécuritaires pour tous et toutes. Et malheureusement, l'automobile individuelle ne vient pas répondre à tous ces besoins-là. De l'importance, en fait, de prévoir des milieux de vie, finalement, qui permettent aux transports actifs et collectifs d'être une solution incontournable et facile aussi. Là.
Mm-hmm. Ouais. Pourriez-vous décrire, par exemple, le statut ou le quotidien d'une personne qui, justement, est en déficit de transport là, pour avoir une belle image
absolument,
de ce que
absolument.
Ça représente?
Bien, c'est simple. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut vivre un déficit de mobilité, mais une des raisons qui personnellement, me frustre ou me révolte le plus, c'est vraiment le manque d'accessibilité financière. Dans le sens où une personne qui doit aller à l'école ou qui doit aller au travail, qui n'a pas de voiture, qui vit, par exemple, dans un quartier excentré, qui doit se rendre, je vais donner l'exemple de Québec, là, bien entendu. Donc, quelqu'un qui habite à Beauport, qui veut aller à l'Université Laval, ça se peut que ça prenne 1h30, en fait, en transport collectif, un autre 1h30, mais si on n'a pas les sous pour acheter les billets de bus, qu'est-ce qu'on va faire. Nous, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec des personnes en situation de pauvreté qui vivent des déficits de mobilité. C'est une aberration en tant que telle. Le droit à la mobilité, certes, il n'est pas reconnu de manière formelle dans les outils législatifs québécois ou canadiens. Reste que, même si un droit n'est pas reconnu en tant que tel, il existe quand même. Ce n'est pas éthique de laisser ces personnes-là chez elles.
C'est quand même multidimensionnel, j'allais dire.
Ben oui.
J'avais peut-être un exemple complémentaire dans une chronique que j'ai faite. On parlait d'un document que vous avez fait sur les gens qui avaient peur de sortir, en
Absolument.
Fait. Puis la solution privilégiée pour toutes les catégories de personnes, étant donné tous les risques qu'ils voyaient, c'était ne pas sortir.
Ouais.
Ça, c'est un méchant déficit, là, quand tu dis, ben là, je sors plus. Puis moi, je vis ça avec des gens de la basse ville que j'accompagne. Puis l'hiver, à cause des trottoirs ou maintenant un peu d'insécurité dans le quartier de Saint-Roch, les gens, la décision qu'ils prennent, c'est je ne sors pas. Fait que ça, on est en gros déficit de mobilité, là.
Oui, bien, c'est ça. Pour pouvoir se déplacer, je pense qu'il faut avoir plusieurs conditions de succès réunies. Il y a le fait de se sentir compétent, mais effectivement, le sentiment de sécurité, c'est vraiment un élément qui est fondamental, surtout pour des catégories de personnes qu'on peut considérer comme étant un peu plus vulnérables.
Comme les femmes, notamment.
Effectivement. Ouais. Donc, les femmes et surtout les femmes aînées ont des exigences en matière de sécurité qui sont plus élevées que d'autres catégories de personnes, ce qui fait en sorte que... je vais vous donner un exemple. On a fait une analyse récemment sur les déficits de mobilité, donc qui ne se déplace pas à Québec. On a segmenté l'enquête origine-destination, qui est finalement une enquête qui s'intéresse à qui se déplace, mais nous, on s'intéressait plutôt au contraire. Et on s'est rendu compte que les femmes aînées d'un quartier à Québec qui s'appelle Montmorency, qui est un quartier où il y a des indices de défavorisation sociale et matérielle très élevés, on s'est rendu compte que 50% des femmes aînées ne se déplaçaient pas.
50%.
Donc, c'est très important en tant que tel. Donc, effectivement, quand on regarde à Québec en général, on parle de près de 15% de la population qui ont dit lors de la dernière enquête ne pas se déplacer, mais quand on segmente en fonction de l'âge et en fonction du sexe, là, on se rend compte qu'il y a des catégories de personnes qui sont plus désavantagées que d'autres.
Donc, on se rapproche de plus en plus de la marche avec le quatrième volet de votre vision, sécurité routière et vision zéro, justement.
Ah, la vision zéro. J'adore.
Oui. 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 Alors, expliquez-nous.
Alors, c'est sûr que la sécurité, c'est fondamental, surtout pour la sécurité piétonne, parce que les piétons n'ont pas d'armure. Donc, nous sommes plus vulnérables aux collisions, surtout dans le contexte où les voitures deviennent de plus en plus grosses.
Ça roule. Oui, les VUS, justement, là.
Absolument. Absolument.
Mais même les petites autos ne sont plus petites.
Oui.
Juste, je ne sais pas si on prend l'évolution du RAV4 ou de la Toyota Corolla, ben, ils ont toutes gonflé avec les années.
Fait que
c'est pas juste en hauteur, là, mais ça grossit.
Exact. Mais, puis la vision zéro à ce niveau-là devient absolument très légitime parce que...
Alors, c'est quoi la vision zéro?
Ben, c'est un renversement de paradigme.
Oui. Donc, mais est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'on associe...
C'est zéro quoi?
Alors, la vision zéro, c'est zéro décès, zéro collision, zéro blessé grave.
Voilà.
C'est vraiment en opposition à l'approche qui est dite plutôt traditionnelle. Donc, cette vision-là cherche vraiment à avoir une approche qui est très structurante, très globale. L'approche traditionnelle va surtout plutôt s'intéresser aux lieux qui sont dits accidentogènes. Donc, souvent, on va réagir en réaction. Donc, dans l'approche traditionnelle, on va constater, par exemple, qu'il y a eu une collision dans une intersection et là, on va poser une intervention. Tandis qu'avec la vision zéro, on prend plutôt un pas de recul, puis on est plutôt en prévention qu'en réaction. Donc, vraiment, on va analyser les intersections au complet pour vraiment essayer de faire en sorte que, d'un point de vue urbanistique, qu'on protège finalement les usagers et les usagères les plus vulnérables. La vision zéro aussi, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'elle renverse le poids de la responsabilité sur les concepteurs, en fait. Donc, on va chercher à faire des aménagements qui pardonnent l'erreur humaine. Donc, en ce moment, dans notre approche traditionnelle, encore une fois, on a des villes, des milieux de vie qui sont conçus pour favoriser la fluidité automobile, pour faire en sorte que les gens se déplacent rapidement du point A au point B. Souvent, c'est le domicile de travail, puis après ça, c'est le travail domicile. Sauf que la vision zéro est vraiment, OK, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'aménagement pour faire en sorte que tous et toutes, peu importe leur mode de transport, soient en sécurité. Donc, comment que ça peut, à quoi ça ressemble concrètement, finalement, la vision zéro? Par exemple, on peut donner l'exemple de pistes cyclables qui sont dédiées, qui sont séparées de la chaussée. Mm-hmm. Clairement que c'est une bonne pratique en tant que telle de faire, par exemple, je vais donner les exemples des CVC, les corridors vivacité à Québec. Je peux donner aussi l'exemple du rêve sur Saint-Denis aussi. Donc, de faire des infrastructures qui sont dédiées, qui sont vraiment séparées de la chaussée automobile, vient vraiment finalement sécuriser en fait ces modes de transport-là. Donc, on peut dire que c'est une certaine forme de vision zéro. La vision zéro, c'est une approche qui est éprouvée aussi, hein, soit dit en passant, elle existe depuis les années 90. Ça a pris naissance en Suède. Donc, encore une fois, on revient avec les pays scandinaves, mais bien sûr, qui ont une très grande forme d'exemplarité en matière d'aménagement du territoire, en matière de mobilité. Donc, cette approche-là, elle a été éprouvée dans le sens où elle a des impacts très probants sur le bilan de sécurité routière. On le sait, au Québec, 2022 a été la pire année en termes de bilan de sécurité routière pour les décès et les collisions piétonnes.
Mais ça diminue quand même beaucoup depuis les années. Là.
Ça tend à descendre, effectivement. Sauf que je suis vraiment désolée, mais cette année 2025, ça commence mal en matière de sécurité piétonne. La semaine dernière, deux collisions, deux décès malheureusement dans la même journée dans Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. Donc, il y a encore, même s'il y a eu des améliorations, il y a toujours matière, en fait, là, à s'améliorer puis à vraiment accélérer les changements.
Est-ce qu'il y a une stratégie en place pour y arriver, justement, une stratégie globale?
Bien entendu, il y a le code de sécurité routière. Il y a eu une modification récente là au code de sécurité routière avec le PL 48. Il y a eu certaines améliorations qui ont été réalisées.
PL 48?
Le projet de loi 48.
Ah, okay.
Donc, le projet de loi 48, c'était l'année dernière, là, soit dit en passant. Là, c'était en 2023, c'était pas en 2024. Oui, il y a eu des améliorations, mais bien franchement, on est encore loin de la vision zéro au Québec. On sait aussi que la ville de Québec, ville de Lévis, ville de Montréal, par exemple, est plutôt exemplaire en matière de vision zéro. Là, ça, je peux vous l'accorder. Oui, tout à fait. Donc, c'est une approche, encore une fois, qui est reconnue de plus en plus, puis que les villes essaient de mettre en place. Mais bien entendu, ça a des coûts de mettre en place cette vision zéro-là. Et dans les grands débats de société que l'on constate entre les municipalités, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, on sent qu'il y a certains enjeux à ce niveau-là.
Alors, Marie-Soleil et Michel, nous prenons une courte pause musicale et nous revenons ensuite parler des bienfaits découlant d'une meilleure sécurité piétonne. Nous sommes de retour avec Marie-Soleil Gagné, directrice générale d'Accès Transport Viable, et de notre serein pèlerin, Michel O'Neill.
Cui.
Alors, Marie-Soleil, les bienfaits qui découlent d'une meilleure sécurité piétonne, bon, on n'attendra pas là d'atteindre vision zéro, mais quels sont les bienfaits qu'on peut constater maintenant en améliorant un peu la sécurité et idéalement, on verrait quoi? Quels sont les bienfaits d'abord peut-être pour la personne, la santé même?
Bien, c'est sûr que encore une fois, on revient sur la question que différentes personnes ont différentes exigences en matière de sécurité. Il y a des gens qui en ont des plus grandes, il y en a qui en ont des moins grandes. Donc, c'est sûr que d'appliquer la vision zéro d'un point de vue urbanistique dans nos milieux de vie, ça fait en sorte que ça crée des espaces d'égalité. Donc, ça fait en sorte que les personnes pour qui ils ont des exigences de sécurité plus élevées, ces personnes-là, leurs besoins sont répondus. Ça fait en sorte que nos enfants...
Automatiquement, les autres s'y prennent en charge quand
exactement,
c'est ça.
Exactement, c'est ça. Donc, si on conçoit la ville pour les enfants, pour les aînés, pour les personnes avec des chaises roulantes, pour les parents avec des poussettes, bien nécessairement, en tant que tel, on vient créer un espace d'égalité pour tout le monde. Donc, ça fait en sorte que ça encourage, en fait, la marche. Veux pas, il y a un concept qui est super intéressant que j'ai envie juste d'amener rapidement, c'est le trafic induit. Le trafic induit, ça fonctionne pour tous les modes de transport. Plus qu'on ajoute de capacité, plus qu'on crée finalement d'infrastructures confortables, sécuritaires pour un mode.
Adapté.
Ben les gens vont l'adopter en tant que tel.
Ouais, on a juste à regarder ce qui se passe le long du fleuve Saint-Laurent, parce que là, on a créé vraiment un environnement hyper intéressant pour la marche, voilà. Et etc. Puis là, essayez pas de vous stationner pour aller là maintenant. C'est rempli à capacité. Fait que le moindrement qu'on crée l'organe crée le besoin d'une certaine manière.
Alors, je vois l'enthousiasme de Marie-Soleil pour ce projet-là.
Oh. Ben oui, Samuel de Champlain, mon Dieu, je l'aime tellement cette promenade et j'espère qu'on puisse aller vers d'autres phases. Mais bref, donc, quand on conçoit la ville pour la marche, ben les gens l'adoptent. Donc, veux pas, c'est vraiment, il faut arrêter de penser que c'est uniquement une responsabilité individuelle. C'est aussi une responsabilité collective. Puis, les décisions des personnes qui sont en haut viennent conditionner aussi nos comportements en bas. C'est un peu ça que je pourrais dire.
Puis, le trafic induit, c'est vrai pour les autos aussi, parce que si on crée des autoroutes, ben là, veux pas, ils vont se remplir. Hein? C'est ce que les spécialistes qui étudient le transport ont montré. Que ça soit électrique, pas électrique, etc. S'il y a de l'espace, il va se remplir.
Exact. Et le trafic déduit, son contraire existe aussi. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Braes. C'est son nom scientifique. Donc, à partir du moment où on réduit la voie automobile, mais conséquemment, il y a moins de chars. Donc, grosso modo, si on conçoit la ville pour les marcheurs, les gens vont marcher. Et là, ça va avoir des impacts extraordinaires sur l'individu, donc autant en termes de santé mentale que de santé physique.
Et mais, économique aussi.
Et économique, effectivement. Mais c'est là, c'est sur le champ un peu plus économique que j'avais envie de vous amener, justement. C'est qu'à partir du moment où on sait que notre société, on dépense énormément en santé, c'est un des postes budgétaires les plus importants. Et là, on se rend compte, sociétalement parlant, devrait-on plus travailler sur la prévention? Et là, on sait que les saines habitudes de vie, bien, c'est une solution incontournable, en fait, pour faire de la prévention, pour réduire, en fait, les coûts associés à la santé. Donc, c'est sûr qu'on prévoit notre ville, nos villes, nos habitats pour la marche. Les gens marchent plus. Donc, conséquemment, on fait de la prévention en santé. Nécessairement, les coûts collectifs qu'on investit en santé devraient être moindres.
Il y a moins de maladies.
Effectivement.
Il y a moins de malades aux hôpitaux, exactement. Ainsi de suite. Ouais.
Le coût aussi associé pour chaque mode de transport. Tu sais, il faut arrêter de penser que... excusez-moi, là, je vais en profiter un peu là, pour ventiler aujourd'hui avec vous.
C'est bon.
On a tendance à penser des fois que les pistes cyclables, on subventionne ça avec nos taxes, etc. Mais nos routes aussi sont subventionnées avec nos taxes. Et il y a une étude super intéressante du HEC qui est sortie récemment puis que je vous enverrai, messieurs. C'est qu'on s'est rendu compte que il y a un coût sociétal, collectif pour chaque mode de transport. Donc, par exemple, pour chaque kilomètre parcouru, par mode, il y a un coût associé. Donc, nécessairement, celui de la voiture individuelle est très important. Je pense que pour chaque dollar investi par l'individu, la société doit débourser 6 $. C'est gros, c'est très
énorme,
important.
Oui.
Et les pistes cyclables, c'est quoi?
Là, on était plutôt on était dans du moins de 1 $.
Okay.
Et imaginez la
et marche.
On était dans moins de 25 sous.
Excellent.
Oui.
Oui.
Et donc, on se rend compte que le coût sociétal, en fait, de marcher, il est moindre. Le coût sociétal de prendre son vélo, il est moindre. Donc, la notion d'utilisateur-payeur, franchement, moi, j'aimerais vraiment ça, la travailler un peu plus dans le cadre de nos travaux là, chez Accès Transport Viable, dans le sens où il faut arrêter de penser que c'est ça, que les routes sont pas subventionnées. Moi, je prends pas l'automobile, mais je subventionne quand même à travers mes taxes et impôts. impôts
tout à fait,
la boîte
ben, oui. Alors, ben, c'est ça, il y a tous les frais associés aux soins de santé, qui est la moitié du budget du Québec, sinon ouais, plus, qui ça. Doit croître au fil des années qui viennent. Il y a aussi des bienfaits environnementaux, bien sûr.
Évidemment, ben, évidemment. Oui. En même temps, bon, avec ces transports viables, on milite, on évolue dans le milieu environnemental. Donc, c'est sûr que, bon, évidemment, ce sont des données qu'on connaît bien. Donc, plus qu'on conçoit nos villes, nos milieux de vie pour la marche, pour les transports actifs et collectifs, plus que ça va avoir des impacts sur la qualité de l'air, sur la pollution de l'air. Il y a aussi toute la notion, en fait, de son. Il y a des études qui ont été super intéressantes qui sont sorties là, récemment, comme quoi que les personnes qui vivent à proximité de d'artères, de fort transit, où il y a beaucoup de sons, ça vient augmenter le stress en fait chez ces populations-là, puis ça peut encore une fois occasionner des enjeux de santé publique. Donc, encore oui. une fois, ça occasionne des coûts pour la société. Donc, effectivement, encore une fois, je reviens sur la santé, mais en même temps, l'environnement, l'être humain, on est notre environnement. Là, donc, il faut arrêter de penser qu'on est imperméable. Nous ne sommes pas imperméables. Nous sommes notre environnement. Donc, oui, en termes de qualité de l'air, mais c'est sûr aussi que plus qu'on artificialise nos sols pour faire passer des automobiles dessus, bien plus qu'on limite la place de la nature ou aussi dans nos vies qu'on va atteindre aussi une certaine partie de la biodiversité, la faune, la flore, etc. Puis surtout dans le contexte actuel.
L'écoulement des eaux aussi, ben, qui fait qu'on a plein d'inondations, plus d'inondations que parce que l'eau ne peut pas s'être absorbée.
Absolument. Puis bon, on commence à parler de plus en plus de résilience au changement climatique, ce genre de choses-là. Mais c'est sûr que de prévoir, de concevoir nos villes pour les transports actifs, c'est une manière, en fait, de lutter contre les changements climatiques et d'être résilient aussi par rapport à ça.
Mm-hmm. Oui. Et j'imagine qu'on change aussi l'aspect architectural d'une ville. On pense à la promenade Samuel de Champlain, on change le visage d'une ville.
Absolument. Bien là, on revient au concept de ville à échelle humaine oui. en tant que telle. Là. Donc, on sait des grosses autoroutes qui nous amènent à des commerces grande surface pour aller magasiner des produits souvent pas très chers, pas faits au Canada ni au Québec. Souvent, ces voies-là ne sont pas à échelle humaine. Elles sont pas confortables, conviviales non plus pour y marcher. Mais quand, par exemple, on fait des modifications urbanistiques dans ces milieux-là, qu'on rapproche les façades sur la rue, qu'on fait des commerces, qu'on fait en sorte que ce soit des lieux qui sont animés, qui sont attractifs, où il y a une certaine forme de dynamisme aussi communautaire, bien nécessairement, on rend ces endroits-là, ces milieux-là, beaucoup plus attractifs aussi. Donc, je veux dire, je ne sais pas pour vous, messieurs, mais moi, marcher sur un bord d'autoroute, ce n'est pas ce que je préfère.
C'est pas agréable.
Non,
pas
c'est pas
tout.
Très agréable. Je me sens pas en sécurité. Je me sens pas à ma place. Je me questionne. Je me dis, je suis pas très à l'aise. Par contre, quand je marche sur le bord d'un sartier ou quand je marche, par exemple, sur une rue qui devient tout à coup piétonne parce que, bon, c'est l'été. L'été, c'est fait pour jouer. Bien là, tout d'un coup, je sens que j'ai ma place. Là, je sens vraiment que j'ai le droit à la ville. J'ai le droit, finalement, d'habiter cet endroit-là. Donc, encore une fois, c'est vraiment de repositionner l'être humain au centre de nos milieux de vie, puis d'arrêter de concevoir ces milieux de vie-là pour que les voitures passent le plus rapidement possible dessus.
Et j'ai le droit d'aimer ma ville.
Mais bien sûr.
Ça fait toute la différence.
Ben oui, vraiment, vraiment. Puis bon, j'en ai pas parlé tantôt, mais il y a un concept aussi intéressant qui s'appelle le droit à la ville, qui a été développé, en fait, par Henri Lefebvre dans les années 60. Puis ce droit
un
à la
sociologue,
ville...
Un sociologue.
Oh, un sociologue! un de vos comparses.
Un de mes comparses, c'est ça. un Français de France.
Ah oui, effectivement, oui. Un Français de France, celui-là. Mais bref, ce droit-là, c'est un concept qui est très intéressant, qui permet aussi, encore une fois, de remettre l'être humain au centre de nos actions. Oui. Puis de vraiment remettre l'emphase sur le fait que tous et toutes ont le droit, en fait, d'habiter cette ville-là et de l'aimer, de se l'approprier aussi. Là, et puis, en marchant, en l'expérimentant, cette ville-là, bien, on devient des experts de vécu. Et là, je vous amène peut-être à quelque part d'autre de différent, mais c'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Accès transport viable base beaucoup ses interventions sur la science, sur la littérature scientifique, etc., sur les bonnes pratiques éprouvées à l'international. Mais le savoir expérientiel aussi, c'est vraiment des informations, c'est vraiment une approche qu'on essaie vraiment de mettre de l'avant de plus en plus, parce que vous et moi, qui marchons à tous les jours, par exemple, sur un tronçon de rue d'un point A à un point B, nous savons si nous vivons du confort, nous savons c'est quoi nos émotions, nous savons finalement qu'est-ce qui ressort finalement de vivre dans ces milieux de vie-là. Et nécessairement, bien, nos voix comptent, en fait, nos expériences comptent. Puis c'est sûr que, bon, avec les approches par et pour, avec les approches avec dans le communautaire, on essaie de mettre de l'avant le fait que, par exemple, en consultation publique, c'est toujours un peu tout le temps les mêmes personnes qui participent, mais de là l'importance, en fait, de faire en sorte de favoriser ce savoir expérientiel-là aussi.
Bien, c'est l'univers dans lequel moi, à l'université, j'ai beaucoup travaillé. Et donc, j'étais très intéressé de voir certaines de vos publications, notamment une que vous nous avez envoyée d'une recherche qui a été faite pour voir comment les aînés se sentaient à marcher dans la ville, qui est exactement basé sur ces principes-là, qui étaient extrêmement bien faits, d'ailleurs, où il y a, j'aurai une chronique là-dessus bientôt, justement, sur ces modes de recherche-là, où la marche est centrale, dans le fond, comme stratégie de cueillette de données. Et avec cette vision-là aussi, qui fait pas nécessairement l'unanimité, par exemple, parce que là, il y a des gens qui trouvent que c'est pas de la vraie science, mais ça, on en reparlera avec nos épistémologues et autres logs du même genre. Mais donc, c'est de considérer la science comme la base et différents modes de cueillette de données, ben je pense que c'est comme tout à votre honneur.
Ah, ben merci. Ah oui, les marches exploratoires, ça rend visible beaucoup de choses qui sont autrement invisibles à nos yeux.
Ce qui me frappe aussi, c'est que l'automobiliste, le cycliste, le piéton, bien sûr, ce sont tous des humains. Bien c'est sûr. Qu'à la base, c'est une personne. Et lorsqu'on parle d'automobile, de vélo, quoi que ce soit, des fois, on perd cette notion.
Absolument.
Puis il y a quand même un enjeu, là, on parle comme si tout était beau, tout était gentil, mais dans le fond, ces visions-là ne font pas nécessairement l'unanimité. On est dans une société qui est encore très largement à l'automobile. On sait que chaque fois qu'on essaie, par exemple, d'installer une piste cyclable ou de transformer un environnement, par exemple, où on diminue les places de stationnement, on est dans le trouble, si vous me passez l'expression. Donc, c'est comme une vision peut-être à long terme, mais qui n'est pas nécessaire, qui ne fait pas nécessairement l'unanimité.
Bien, il y a une résistance au changement. Puis à ce niveau-là, je vous référerais peut-être aux travaux de Jérôme Laviolette, qui a travaillé beaucoup sur la psychologie cognitive en tant que telle, autant au point de vue individuel que collectif, dans le sens où on est dépendant collectivement à l'automobile. Donc, je le disais tantôt, en Gaspésie, par exemple, si on n'a pas de char pour se déplacer de village en village, c'est un petit peu difficile. On reste pogné à la maison. Donc, c'est sûr qu'on a une dépendance à l'automobile. Puis comme toute personne ou comme toute société dépendante, bien, on a peut-être la difficulté un peu à s'en rendre compte puis à en prendre conscience de cette dépendance-là. On a une résistance, on a un attachement aussi affectif à l'automobile, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a une certaine forme de réfraction au changement. En même temps, il y a aussi des consensus. Puis ça, c'est vraiment, c'est là-dessus qu'on s'appuie, parce qu'il faut conserver de l'espoir, hein, après tout. Moi, ça fait quand même 15 ans que je milite dans le milieu environnemental. Puis, voilà 15 ans, bien, la question des changements climatiques, c'était pas reconnu. Il y a des gens qui le remettaient en question. Là, on n'est plus là. On n'est plus là en 2025.
Ça dépend pour qui.
Ça dépend pour qui, oui. Vous avez tout à fait raison.
On a un gars au sud, ici, là, qui n'est pas particulièrement convaincu, puis qui va avoir un gros impact quand il va rentrer au pouvoir. Donc, je pense que c'est très important d'avoir ces visions-là et d'y travailler. Mais on est dans un environnement qui est quand même assez abrasif par rapport à ces choses-là. Il ne faut pas non plus être trop angélique. Mais en même temps, c'est là, en tout cas, moi, je suis comme universitaire, je crois encore en la science. C'est là que d'avoir des données bien montées, d'avoir des travaux bien faits est extrêmement utile, parce que là, on est capable de montrer qu'effectivement, telle ou telle chose marche mieux qu'une autre. Là. Et puis, encore faut-il croire en la science.
Encore faut-il croire à la science. Mais écoutez, c'est un constat que le mouvement environnemental, je pense, a posé dans les dernières années, dans le sens où les faits, les statistiques, ça percole peu ou pas beaucoup, en fait, dans l'espace public. Donc, Donc, on est vraiment un peu en crise identitaire. Voilà, je le dis. Aujourd'hui, on est en train de se questionner, devrait-on pas parler avec notre cœur? Donc, puis à ce niveau-là, j'ai un mouvement au Québec, à mon sens, incarne très bien ça, puis ça s'appelle « Mère au front ». Mère au front, à mon sens, incarne en tant que telle vraiment bien le fait de parler avec son cœur pour vraiment parler des changements climatiques, parler de la nécessité finalement de prendre soin du vivant, de remettre ce vivant-là en priorité, là, grosso modo. Puis en tant que telle, je partage quand même votre désarroi, on peut appeler ça comme ça, sauf que puis c'est triste à dire, hein, mais il y a de plus en plus d'événements météorologiques assez extrêmes. Je pense que partout sur la planète et pas uniquement dans les pays du Sud qu'on entend peu ou pas du tout parler.
En tout cas, où on est maintenant, quand on se parle, Los Angeles brûle.
Exactement.
Puis, c'est pas une vue de peur ou n'importe quoi. Là, ça se passe. Là.
Exactement, exactement. Donc, on en voit de plus en plus les preuves. Donc, à mon sens, je ne pense pas que le fait de faire l'autruche, excusez-moi, hein, moi, je me permets de le dire, dans la vague néoconservatrice qu'on connaît à l'heure actuelle, je pense pas que ça va je pense pas que ça va faire long feu. Mais ça, c'est je suis quelqu'un de très optimiste. J'ai espoir. C'est pas pour rien que je milite aussi dans le milieu environnemental pour la réduction des inégalités, mais aussi pour accélérer la transition socio-écologique. Moi, je considère qu'il y a du leadership. Puis je considère aussi que cette transition-là, elle s'organise, elle se planifie, puis qu'il y a des gens, on n'est pas seul.
Tout à fait. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que la science est inutile, mais ça veut dire qu'il faut peut-être la présenter autrement.
Absolument.
Ou qu'elle est en complément avec d'autres manières de faire aussi.
Absolument.
Alors, Marie-Soleil, en fin d'épisode, je vais vous faire plaisir et je pense qu'on va faire plaisir aux auditeurs. Vous allez nous parler de votre grand projet, la Maison des mobilités actives.
Oui. Ah, ce fabuleux projet. Ça fait plusieurs années qu'on cogite, en fait, ce projet-là. C'est vraiment sur... on s'est inspiré des maisons du vélo qu'on peut retrouver un peu partout en Europe, mais il y en a une aussi.
Il y en a à Montréal.
Il y en a une à Montréal, tout à fait, exactement. Mais nous, on verrait vraiment ça, une maison des mobilités actives, parce que, bon, la marche, le vélo, les micro-mobilités, ce sont des sujets qu'on couvre.
Quand vous appelez micro-mobilité, c'est quoi? C'est des gens qui se promènent sur une roue, là?
Oui, les gyro-roues, trottinettes, ou, bon, bref, tout ce genre de tous ces engins, bref. Donc oui, donc on veut créer un tiers-lieu à Québec, dans la capitale nationale, pour les personnes qui utilisent les transports actifs, où on pourrait retrouver différents services, des ateliers de réparation communautaire de vélos, de l'accompagnement. Tu sais, il y a plein de personnes, en fait. C'est drôle à dire, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas faire du vélo dans la vie. Donc, on donne des cours de vélo. Mais on aimerait aussi faire de l'accompagnement, surtout sur la question de la marche auprès des personnes aînées. On sait qu'il y a plusieurs freins à l'adoption de la marche pour les personnes aînées. Puis, c'est vraiment le genre de projet qu'on veut rediriger, finalement, là, dans le cadre de cette maison-là. Donc, oui.
Avez-vous comme un lieu en tête ou pas vraiment?
On est encore en train de magasiner ce lieu, mais effectivement, on est accompagné par la CEDEC, donc de Québec, et puis on travaille fort à mettre en place ce beau projet.
Alors, Marie-Soleil, en terminant, on veut se renseigner. Comment faire? Vous avez un magnifique site web.
Oui, merci beaucoup. Oui, on y a travaillé très fort. Donc, oui, vous pouvez nous rejoindre sur le site web transport avec un S viable avec un S.org. On a aussi différents vidéos. On a fait une série qui s'appelle Point tournant, que j'encourage tout le monde à aller visionner. C'est vraiment, c'est de la vulgarisation, en fait, là, sur les différentes thématiques qui nous intéressent. On a fait un balado aussi récemment qui s'appelle Le temps d'une bus.
Oh!
Oui, 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 oui. Donc, on a fait un balado, puis bien entendu, on est un organisme à but non lucratif. Donc, on est...
Tous les dons sont les bienvenus.
Tous les dons sont les bienvenus, oui, bien entendu. On a une page Facebook, page Instagram aussi, c'est tout nouveau maintenant. Oui,
super.
Oui, oui, oui.
Et alors, puis, on mettra, comme d'habitude, sur le site de l'émission, on mettra les coordonnées pour les personnes qui veulent vous rejoindre.
Absolument. Avec
alors,
grand plaisir.
Marie-Soleil et Michel, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie, messieurs. Merci beaucoup.
Le plaisir était pour moi toujours aussi.
C'est l'heure de la chronique « Le corps en marche » présentée par Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et experte en posture. Bonjour Michel et merci de vous joindre à nous, comme à toutes les deux semaines, pour marcher vers le bien-être.
Bonjour Denis, c'est toujours un grand plaisir de participer à votre émission. Aujourd'hui, j'aimerais proposer à vos auditeurs une approche à la marche à la fois simple, pratique et très bonne pour le moral que je résumerai ainsi. Marchez, souriez. Saluer, répéter.
Oh, marcher, souriez, saluer, répéter. J'aime beaucoup, Michel.
J'en conviens, Denis, que pour certains, ça peut paraître un peu simpliste. Mais comme nous allons le découvrir, ce comportement peut avoir un impact considérable sur notre bien-être. Et pas seulement le nôtre, celui aussi des personnes que nous croisons.
Alors, on vous écoute, Michel.
Il faut remonter à une expression mise de l'avant en 2005 par le psychologue britannique Cliff Arnall, pour qui le troisième lundi de janvier était le jour le plus triste de l'année. C'est ce qu'il appela « Blue Monday ».
Pourquoi ce jour en particulier? Et pourquoi « Blue Monday »
C'est en fait le résultat de ces études qui ont démontré qu'au troisième lundi de janvier, les gens étaient particulièrement sensibles à une combinaison du mauvais temps hivernal à la British, de la noirceur des nuits plus longues, de résolution du nouvel an abandonné et de dettes financières post-fête. Bref, une journée de déprime collective.
Et c'est probablement ce qu'on appelle ici la déprime hivernale et que l'on surnomme dans l'Ouest canadien où j'ai vécu les February Blues. C'est le temps de l'année où on commence à en avoir marre, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et j'imagine que ce bon docteur Arnall proposait également quelques solutions à cette déprime collective.
Absolument. Pour lui, il suffisait de s'offrir des périodes de bonheur, comme des séjours au soleil. Ici, le voyage dans le sud. Mais nous n'avons pas tous le temps ou l'argent pour ce genre d'évasion. Alors, j'ai mes propres suggestions.
Ah, votre recette anti-déprime.
Oui. Beau, bon. Pas cher et surtout très efficace. Et sans surprise, l'ingrédient premier, vous l'aurez deviné, la marche.
Et voilà.
La prochaine fois que vous croisez quelqu'un sur la rue, souriez-lui. Un vrai beau sourire sur les lèvres et dans les yeux. Vous vous sentirez déjà bien. Et si l'autre vous renvoie votre sourire, vous vous sentirez encore mieux. Échanger un sourire avec l'autre nourrit notre bien-être mental et physique instantanément. L'effet est immédiat. Plus on le fait, plus on est bien. Et on se retrouve de meilleure humeur, le cœur léger. Partie la déprime. Pas besoin de mots, juste un sourire suffit.
Et vous connaissant Michel, vous allez sûrement nous le démontrer scientifiquement.
Bien sûr. En effet, les recherches l'ont confirmé. Pendant des années, les psychologues se doutaient bien qu'un sourire pouvait améliorer notre humeur, bien qu'ils ne savaient pas vraiment comment ni pourquoi. Cette intuition se traduisait par l'expression populaire « fake it until you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que cela devienne réel. Sous-entendu qu'un sourire, même forcé, pouvait avoir un effet positif sur notre bien-être.
Intéressant.
En 2020, l'Université d'Australie méridionale a confirmé cette hypothèse selon laquelle le simple fait de sourire, même de manière forcée, peut tromper l'esprit et lui faire croire que nous nous sentons optimistes. Voici comment s'est déroulée l'expérience. Les participants devaient tenir un stylo entre leurs dents, ce qui activait les muscles de leur visage pour reproduire un sourire. Lorsque l'on fait l'effort de sourire, cela incite le cerveau à libérer des substances chimiques qui nous rendent plus positifs. C'est exactement ce que les participants de l'étude ont ressenti. Ils se sentaient non seulement plus heureux, mais voyaient aussi tout ce qui les entourait, y compris les autres, comme plus joyeux. Leur sourire forcé a réellement changé leur perception de soi et des autres.
Oh, c'est vraiment fascinant. Mais est-ce que cela ne semble pas artificiel pour certaines personnes?
C'est une critique courante, mais je préfère voir cela comme une activation plutôt qu'une simulation. Lorsque nous activons un sourire, une réaction dans notre cerveau améliore notre humeur et rend tout moins intimidant. D'après mon expérience, échanger un sourire avec des passants, c'est l'une des façons les plus simples de transformer un sourire forcé en un sourire naturel. Une fois activé, un sourire peut rapidement devenir authentique et améliorer notre humeur. Le psychologue Eric Weiselman a démontré que ces petits moments de connexion sont essentiels, car ils renforcent notre sentiment d'appartenance. Au cours de ses recherches, les personnes reconnues par un sourire, un signe de tête, un regard, se sentaient mieux dans leur peau que celles qui étaient ignorées. D'autres études ont révélé que les personnes qui ont reçu des salutations ont davantage envie de sourire et de saluer les autres à leur tour. Cela crée un effet domino qui peut rendre nos journées plus légères, pleines d'espoir.
C'est vrai parce que je marche souvent dans mon quartier et ailleurs et je souris bien sûr et je lève la main et la réponse est immédiate.
Oui.
Et je me demande s'il y a d'autres éléments qui peuvent jouer sur notre bien-être en marchant.
Absolument, Denis. Sourire ou marcher avec un crayon entre les dents, ce n'est pas la seule manière de se débarrasser d'une humeur maussade ou d'un sentiment de morosité. Adopter une bonne posture aide à cultiver un état d'esprit optimiste. Une étude de l'Université de l'État d'Ohio a révélé que redresser sa posture aide à se sentir plus confiant et plus déterminé.
Donc, marcher, sourire et maintenir une bonne posture, c'est un trio gagnant.
Absolument! Marcher, saluer et sourire font bien plus qu'améliorer notre humeur. Historiquement, saluer les autres en marchant a toujours été une façon simple pour les humains de créer des liens sociaux. Rencontrer des gens à pied, c'est l'un des fils conducteurs qui tissent une communauté. Les études le montrent encore et encore à quel point la communauté est essentielle pour notre bien-être, que ce soit pour surmonter le Blue Monday ou autre chose. Le sentiment de communauté réduit le stress, améliore notre santé mentale. Des études montrent que les liens sociaux renforcent l'estime de soi et diminuent les risques de dépression. Sourire ou saluer quelqu'un en marchant, c'est un geste simple, mais il y aura un impact incroyable sur notre bien-être et sur le lien social dans notre communauté.
Avant de conclure, Michel, auriez-vous quelques conseils pratiques là pour nos auditeurs?
Bien sûr! D'abord, priorisez toujours votre sécurité personnelle. Souriez ou saluez des inconnus seulement si vous êtes sûr que ce sera bien interprété. Les promeneurs matinaux avec des chiens sont réputés pour être amicaux. Vous pouvez commencer avec eux. Ensuite, tenez-vous droit, les épaules en arrière, menton relevé, et laissez vos bras balancer naturellement. Cette posture vous donnera la confiance pour sourire et saluer. En plus, elle active des mécanismes dans le cerveau qui améliorent votre humeur. Si vous êtes plutôt timide et que l'idée d'engager un contact avec un inconnu vous intimide, avant de quitter la maison, essayez d'adopter la Wonder Woman pose ou la pose de la super-héroïne.
Oh.
Cette posture est conçue pour renforcer confiance et puissance personnelle. Donc, elle consiste à placer vos pieds écartés à la largeur de vos hanches.
Alors, on se tient droit, debout.
Droit, les pieds écartés, stable.
Voilà.
Posez les mains sur vos hanches, les coudes ouverts, comme Wonder Woman quand on la voit tenir sa pose. Ensuite, vous relevez le menton avec détermination, vous ouvrez le torse et respirez profondément. Les recherches, notamment celles de la psychologue Amy Cuddy, montrent que tenir cette posture pendant 2 minutes peut augmenter la confiance en soi, réduire le stress et favoriser une attitude positive idéale avant des situations stressantes. Personnellement, moi, j'utilise cette pose-là dans des moments stressants ou avant des conversations difficiles, une entrevue. ça fonctionne.
Ah, ça, c'est intéressant. Avant des entrevues, avant des conversations qui pourraient être un peu difficiles
ou intimidantes. On va se sentir plus sûr de soi, plus confiant. À l'inverse, si on a une posture où on est tout replié sur nous-mêmes, sur notre chaise, bien, ça va avoir l'effet inverse. Donc, c'est simple et, je vous le dis, ça marche.
Oui.
Alors, une fois que vous êtes à l'aise, allez marcher, relevez les coins de votre bouche, avancez d'un pas assuré, saluez les passants avec un large sourire et éloignez-vous de la tristesse, du doute, de la déception, de la défaite.
Et c'est le bonheur total.
Et votre corps vous en remerciera.
J'ai souri un peu à la remarque du crayon entre les dents. J'aimerais y revenir avant qu'on se laisse cette semaine.
Certainement.
Ça fait un peu bizarre, n'est-ce
pas? Ça fait un peu bizarre. Moi, je vous conseille ça peut-être à la maison, là, pas nécessairement en marchant dehors, mais ça fonctionne. Vraiment, essayez-le pour rire. Vous mettez le crayon dans la bouche et vous le tenez pendant 1 ou 2 minutes. Vous allez voir, votre état va changer.
Oui.
Oui, ça, c'est le fait de... C'est comme la posture. Si vous redressez votre posture, vous allez vous sentir plus confiant. Bien, c'est ça pour le visage. Donc, si vous mimiquez un sourire, votre cerveau va commencer à comprendre que vous êtes de bonne humeur puis va sécréter les hormones en conséquence.
J'ai ma propre suggestion.
Oui.
Le matin, vous vous regardez dans le miroir et vous souriez.
Hein? Oui.
C'est bon. Et aussi, vous pourriez placer sur le miroir, dans votre salle de bain, une photo de vous-même en souriant.
Absolument.
Ça pourrait vous motiver à sourire, n'est-ce pas?
100%.
Bon, je pense qu'on a fait le tour et puis on se sent déjà mieux parce qu'on sourit en studio.
Nous, on sourit en se regardant, effectivement, ça fonctionne.
Alors, comme vous dites, si bien votre corps vous en remerciera, j'aime tellement votre slogan, Michel. Alors, merci beaucoup pour cette chronique inspirante et joyeuse. Marcher, sourire et saluer, des gestes simples qui peuvent vraiment changer nos journées. Et merci de nous avoir mis sur la bonne piste pour marcher vers le bien-être.
Merci, Denis. À bientôt pour une prochaine chronique.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier nos invités, Marie-Soleil Gagné et Michel Cousinat-Baudet. Et merci également à notre complice à la technique, Olivier Pitt. Et comme toujours, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs de trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de les télécharger. Je vous laisse cette semaine avec cette pensée de Henry Socal. Le chemin le plus court entre deux personnes, c'est le sourire. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.